C'est le prédicateur anglais du 19e siècle, Adam Spurgeon. Il disait, une petite foi va vous permettre d'amener votre âme au paradis. Une petite foi va amener votre âme au paradis, mais une grande foi va amener le paradis à votre âme. Et vous permettre d'amener le paradis aux autres. Trop souvent, notre problème en tant que chrétien, c'est que nous nous satisfaisons de miettes. Il est dit dans le livre aux Éphésiens par Paul que en Christ, nous avons toutes les bénédictions dans les lieux célestes, en nous, en Christ. Et la plupart du temps, nous traînons par terre. Le livre de Josué, c'est une préfiguration de la vie selon l'Esprit, de cette vie d'abondance en Christ. Jésus, son plan pour nous, c'est pas simplement que nous contentions d'une vie médiocre, avec l'assurance que nous sommes sauvés, et qu'à part ça, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire. Christ, il veut que nous réalisions que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous avons en lui tous les trésors possibles. L'apôtre Paul, après 25 ans d'apostolat, lui qui a peut-être été le plus grand des apôtres. Nous avons étudié sa vie passionnante et tellement pleine pour le Seigneur dans l'étude aux Corinthiens. Il disait à la fin de sa vie qu'il n'avait pas encore atteint cette perfection, mais qu'il poursuivait sa course, afin de remporter ce prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et pour faire cela, il avait une technique que nous devrions utiliser nous aussi. C'est d'oublier ce qui est en arrière et tendre vers ce qui est en avant. Son but, c'était de connaître Jésus-Christ. La puissance de sa résurrection. Là, on est tous d'accord. Mais il ajoutait, et la communion de ses souffrances. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Devenir conforme à lui dans sa mort, c'était le but de Paul. Quand on a cette optique, on revient à l'Ancien Testament, à ce livre de Josué, et on voit mieux ce que Dieu veut nous apprendre. Encore une fois, nous avons vu comment nous passions de l'esclavage en Égypte, qui est un type de notre esclavage au péché, au baptême dans la mer Rouge, au fait que maintenant nous sommes libérés, nous sommes sauvés. Mais trop souvent, nous nous contentons de rester là, à tourner en rond dans le désert. Alors que Christ veut que nous entrions dans cette terre promise de la vie selon l'Esprit. La terre promise, encore une fois, ce n'est pas le paradis. malgré la terminologie utilisée dans les chants gospel. Les chants chrétiens n'ont pas toujours une théologie exacte. C'est merveilleux quand ils le sont parce qu'on peut apprendre la théologie en chantant. Mais la terre promise, c'est la vie selon l'esprit avec ses combats. J'espère qu'au paradis, on n'aura plus à combattre. Nous avons vu aussi que Moïse ne pouvait pas emmener ses enfants, les enfants d'Israël, en terre promise. Parce que Moïse représente la loi. Et la loi à elle seule ne peut pas nous emmener dans cette vie d'abondance. La loi, elle nous montre que nous n'y arrivons pas. Que nous n'arrivons pas à vivre selon les préceptes divins. Il a fallu Josué pour emmener ses enfants en terre promise. Notre Josué, c'est Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous avons vu les combats, les batailles. La première, c'était bien sûr la bataille de Jéricho. Après la bataille d'Aï. La semaine dernière, nous avons vu cette fameuse bataille de Gabaon, où Dieu a retenu le soleil en réponse à la prière de Josué. Nous sommes dans le chapitre 10 de Josué et nous allons voir à partir du verset 28. Si vous avez besoin d'une Bible, il y a des Bibles à l'arrière, je crois. Dans la Bible à la colombe, c'est à la page 232. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 28-29. Josué et tout Israël avec lui passa de Makkéda à Limna et l'attaqua Limna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël qui le frappa du tranchant de l'épée ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Il n'y laissa pas un rescapé et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. À la suite de la bataille de Gabaon, verset 28, que nous n'avons pas lu, il était dit que Josué avait pris Makkéda, donc il avait pris une de ses villes fortes qui se trouvait dans le pays de Canaan, dans cette terre promise. Et puis nous voyons qu'il va continuer dans la fin, jusqu'à la fin du chapitre 10, pardon, ça va être la campagne des villes du sud. Josué a commencé par frapper au cœur. Jéricho, Aï, la vallée de Gabaon. Et puis maintenant, il descend vers le sud. Et puis, nous verrons au chapitre 11 qu'il va attaqué vers le nord. Et on ne va pas lire tout le texte, je vous laisse prendre le temps de le lire, mais on va passer dans la fin de ce chapitre, on voit plusieurs villes.
So we're not going to read the whole text of this chapter 10, but at the end of it we see several cities.
Makeda, qui veut dire l'endroit des bergers. Ensuite, il est question de la ville de Libna. Ensuite, il est question de Lachish. On ne mangeait pas de pizza. Non. Eglon. Hébron. Débir. Et finalement, il est dit que... Et la description de la victoire dans chacune de ces villes, de ces places fortes, est un, on retrouve des éléments communs, mais elles sont toutes un peu différentes, les victoires. Mais ce qui est important, c'est de réaliser encore une fois que c'est Dieu qui donne les victoires. Verset 32 dit « L'Éternel livra Lachish entre les mains d'Israël. » On voit la réaction de ces rois cananéens, ces petits rois, qui essayent de se regrouper, qui viennent au secours l'un de l'autre, mais à chaque fois, c'est Josué qui gagne. Il est dit, Josué frappa tout le pays, la montagne, le Negeb, verset 40, la Shephela et les coteaux, ainsi que tout leur roi. Il ne laissa aucun rescapé et il voit l'interdit tout ce qui respirait comme l'avait ordonné à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Encore une fois, il y a cette question de vouer à l'interdit, de passer au tranchant de l'épée tout ce qui respire. Si vous n'étiez pas là les fois où nous avons parlé de ça, je veux vous rappeler qu'en fait, on a tendance à dire « mais quel Dieu sanguinaire !» Mais encore une fois, Dieu avait été patient avec ce peuple cananéen. Il leur avait donné plus de 400 ans pour se repentir. Et il faut savoir que leur iniquité, leur immoralité était parvenue à un stade qui était sans retour. Nous avons dit que l'immoralité sexuelle était rampante. Que les enfants qui résultaient de cette immoralité sexuelle étaient sacrifiés aux idoles. Et Dieu savait qu'il n'y avait plus aucun espoir pour eux. Et Dieu voulait préserver, protéger son peuple, il fallait donc qu'il les extermine. Je me souviens quand j'étais enfant, j'ai eu la chance de pouvoir habiter l'Afrique. Je me souviens qu'un matin, mon père m'avait montré le serpent qui cherchait à rentrer par la fenêtre dans ma chambre. Un grand boa. Et il avait fait ni une ni deux. Mon père avait pris un manche de pelle et avait frappé de toutes ses forces sur cette bête. Ils n'étaient pas dit, on va lui laisser une chance quand même. On va lui donner un procès équitable. Non, il y avait un danger imminent, il n'y avait aucun espoir, il fallait exterminer la bête. Nous avons vu aussi que c'était une leçon pour nous. Que nous ne devons pas faire de demi-mesure avec le péché dans nos vies. Le péché doit être exterminé. Nous en reparlerons. Le chapitre 11, verset 1, la nouvelle se propage. Et à cette nouvelle, Yabin, le roi de Hatsor, une autre grande ville, envoya des messagers à Joab, roi de Madon, roi de Shimron, roi d'Akshaf, roi qui était au nord dans la montagne, dans la Araba, au sud de Kinaroth, dans la Shephela et dans la contrée de Dor à l'ouest, aux Cananéens de l'est et de l'ouest, aux Amoréens, aux Hittites, aux Phérésiens, aux Yébousiens dans la montagne, aux Éviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple en quantité aussi innombrable que le sable qui est sur le bord de la terre, de la mer, et les chevaux et les chars étaient très nombreux. Encore une fois, devant le danger du peuple d'Israël, les rois, les peuplades de ces régions, essayent de se liguer ensemble, de faire une grande armée. Et ils donnent l'impression d'être aussi nombreux que le sable qui est sur le bord de la mer. C'est intéressant parce que des sources historiques extra-bibliques, donc qui ne sont en dehors de la Bible, confirment la taille de ces armées. L'historien juif Joseph, qui n'était pas chrétien, parle d'une très grande armée qui comptait au moins 100 000 hommes. Et qui avait 20 000 chevaux. Vous souvenez du sable qui est sur le bord de la mer? Ici, même si on se contente de compter les galets, ça va plus vite, mais c'est impossible à compter. C'est intéressant parce que dans la Bible, il est dit que les enfants d'Abraham seront aussi nombreux que les grains de sable sur la mer. Que ceux qui vont être sauvés, il y en a autant que les étoiles. On peut penser que tout ça sont des figures de style, de la poésie. Mais il y a quelques années, des chercheurs scientifiques ont estimé que le nombre des étoiles était de l'ordre de 10 puissance 29. Suivi de 29 zéros. Même 1% de ça, je prendrai. Et que des chercheurs en géologie ont estimé aussi que l'ordre de grandeur du nombre de grains de sable, c'était 10 puissance 29. Ça, c'est une petite réflexion à part. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient pour eux le nombre. Et ils avaient la technologie. Pour nous, les cavaliers, la police de Nice à cheval, ça fait un peu antique. On les voit qui se promènent sur la promenade des Anglais. Ils ne contribuent pas tellement à la réduction des vols, n'est-ce pas, Donovan? Theft. Mais à l'époque, le cheval, c'était un formidable instrument de bataille. Ils avaient aussi des chariots. Et les chariots, c'était comme les tanks d'aujourd'hui. Et donc, verset 5, tous ces rois se concertent et vinrent établir leur camp près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. Et J'en ai déjà parlé un peu, mais nous allons consacrer une étude à voir le message prophétique de Josué. C'est le genre d'étude qui vous donne la chair de poule. Goosebumps. Ça dépend. Qui vous émeut. Parce qu'on s'aperçoit qu'en étudiant l'Apocalypse, beaucoup des événements sont déjà dans Josué. L'alliance avec les Gabaonites. Les rois qui se mettent ensemble, toutes les armées de la terre. Et en fait, on voit vraiment que la Bible, c'est un message intégré. Que rien n'est là par hasard. Que la science, qui souvent dit que la Bible a tort, revient à ce que la Bible a déclaré des milliers d'années. Et donc cette réunion de tous ces rois qui veulent se battre contre Israël, c'est une préfiguration de toutes les armées de la terre qui veulent se battre contre Jésus-Christ à son retour. Les eaux de Mérom se trouvent dans la vallée de Megiddo. Connu aussi sous le nom d'Armageddon. Et donc on va voir le parallèle incroyable entre Josué et l'Apocalypse. Et ça renforce votre foi dans la vérité de la parole de Dieu. Dans l'histoire qui est décrite et dans le futur qui est promis. Le psaume 2 dit « Que font toutes ces nations qui se liguent contre le Seigneur ?» Là aussi, c'est une prophétie. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées ? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Et Dieu dit à Josué, l'Éternel dit à Jésus, Josué qui est un type de Jésus, une préfiguration, ne les crains pas, verset 6, car demain, par ailleurs, moi je les livre tous, blessés à mort devant Israël, tu couperas les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras leurs chars par le feu. Détruire les chevaux en coupant leurs jarrets. Brûler leurs chars. C'est sûr que quand on coupait les tendons des chevaux, ils ne pouvaient plus être utilisés comme instrument de guerre. Mais ça remonte à une autre prescription dans Deutéronome 17. L'Éternel avait dit à Moïse que un jour les Israélites voudraient un roi. Mais il y avait trois choses qu'il devait éviter, ce roi. Il devait éviter l'or, les femmes et les chevaux. prescription un peu maso ou macho. Mais on peut lire Deutéronome 17, 16. Que ce roi n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas, et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Les chevaux étaient aussi liés à une idolâtrie à l'époque. En Égypte aussi. Il y en a même question dans 2 Rois 23, 11. Il supprima de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avait consacré au soleil. Donc pour eux, les chevaux étaient tellement puissants qu'ils en faisaient des idoles. Et donc ils devaient détruire les chevaux, détruire les chars. David nous explique dans le psaume 27, que certains, c'est à leur char, d'autres, c'est à leurs chevaux, mais nous, c'est au nom de l'Éternel notre Dieu que nous faisons appel. Encore une fois, le Seigneur ne veut pas que nous comptions sur d'autres ressources que lui-même. Notre tendance, si nous avons des ressources, c'est de déplacer notre confiance sur ces choses. Ces choses qu'il nous a peut-être données, mais qui en elles-mêmes n'ont aucune puissance. La technologie peut devenir une idole. On peut penser que si on avait un programme de télévision, ce serait formidable pour annoncer l'Évangile à Nice. Et en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si on a la télévision, peut-être qu'on prie moins. Peut-être qu'on ressent moins notre faiblesse, notre incapacité à faire le travail tout seul. Et donc, cette leçon de Josué, de détruire ces ressources que le monde a placées comme des idoles. Il est bon de réaliser que c'est un danger qui nous guette tous. Grégory nous a écrit des États-Unis. Quelque part, il comprend mal que les églises soient si grandes, si riches, et qu'en même temps, il y ait autant de péchés, peut-être à l'intérieur, mais aussi en dehors, dans les villes, dans les États-Unis. Quelque part, il dit, je préfère notre petite église. Alors il ne faut pas se contenter de dire on est petit, c'est bien. Mais en même temps, c'est vrai que si on n'a pas les programmes de télé, on n'a pas les orchestres à 20 personnes, les groupes de chorale de 150 personnes. Quelque part, on peut être plus proche du Seigneur. Parce qu'on réalise que ce n'est pas par nos ressources. Et s'il multiplie les ressources par 1000, c'est toujours pas par les ressources. Là, ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans qu'on campe. L'Église a campé. On campe encore ici. On a encore les toiles. Le danger maintenant, c'est qu'on va avoir un bâtiment. Ah, on devient établi. Mais le Seigneur nous préserve de ça. Il est en train de nous montrer qu'en fait, on va avoir un bâtiment, mais il n'y aura peut-être plus personne. Il veut nous garder sur nos genoux, ne dépendre que de lui. Amen. Comme l'Éternel le lui avait dit, il coupa les jarrets de leurs chevaux et il brûla leurs chars par le feu. Et en fait, on voit que la clé de son succès, c'est son obéissance. Et pour nous, les victoires, elles n'ont pas d'autre secret. Une chose qui est importante aussi à réaliser, les questions d'autres victoires, et les dix versets 18, Josué fit longtemps la guerre contre tous ses rois. C'est important de réaliser que ces victoires ne sont pas arrivées en quelques semaines. Là, tous ces passages, on dit, on va pas les lire, c'est trop long, c'est monotone. Mais ça représente des mois de siège, des mois de bataille. Et on dit qu'en fait, ces victoires ont pris, en se fiant sur l'âge de Caleb, que ça a pris au moins 7 ans. Sept ans, ça devrait nous rappeler quelque chose aussi. Ça, c'est pour l'étude sur Josué et l'Apocalypse. Et ça doit être une leçon pour nous que dans notre combat, repousser les ennemis, ça prend du temps. Je ne sais pas si vous savez, mais nous avons des ennemis. Nous avons bien sûr Satan, qui est l'ennemi principal. Il s'occupe rarement directement de nous. Il envoie ses sous-fifres. Et un autre ennemi, c'est le monde que Satan contrôle. Et puis nous avons notre vieille nature de pécheur qui est tellement attirée par tout ce que le monde a à nous offrir. Et nous sommes comme des petites marionnettes. Notre vieille nature, c'est les articulations de nos bras. Le monde, c'est les fils qui nous tirent. Et puis le marionnettiste, c'est Satan. Et Jésus est là pour nous couper toutes ces chaînes. Mais souvent, quand nous voulons faire cela, Satan dit, ah bon, je vais utiliser une autre tactique. Il vient nous condamner lorsque nous tombons dans le péché. Et c'est vrai que nous avons l'impression qu'une fois que nous sommes nouveaux chrétiens, en quelques semaines, notre vie devrait être parfaitement en ordre. Il y a quelque chose de beau, d'attirant chez les nouveaux chrétiens, c'est qu'ils ont, ils ont ce sentiment de victoire totale. Ils pensent que la bataille spirituelle, c'était le soir où ils ont répondu à l'appel. Mais il y a un moment où on remplace la barbe à papa cotton candy en américain, les bonbons, et Dieu vient nous donner une armure et une épée. Mais nous devons prendre conscience que toutes ces places fortes qu'il y a dans nos cœurs, dans notre chair, ça va prendre du temps. Alors je ne dis pas ça pour encourager ceux qui sont peut-être paresseux, qui se disent « Oh, on a le temps ». Pas pour une excuse de dire « Je ne vois pas de progrès, c'est pas grave, ça prend du temps ». Mais au contraire, pour ceux qui sont découragés parce que malgré leurs efforts, ils voient leurs échecs continuer. Nous devons réaliser que c'est un combat de persévérance. On y reviendra. Verset 21, dans le même temps, Josué se mit en marche. Il retrancha les Anakim des monts d'Hébron, de Débir, d'Anab, de tous les monts de Juda et de tous les monts d'Israël. Josué les voit à l'interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des Israélites. Il n'en subsista qu'à Gaza, Gath et Asdod. Intéressant ce verset 22. Il n'y en avait plus, mais il y en avait encore. Et ça aussi, trop souvent, nous laissons des choses dans notre vie qui n'ont pas de place dans notre vie. Les Anakim, ce sont ces géants qui effrayaient les espions que Moïse avait envoyés, dont Josué et Caleb. Josué et Caleb n'étaient pas effrayés parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. Mais il est question de géants plus tard, avec David bien sûr, Goliath. Et la bataille contre Goliath, c'est parce que le travail n'a pas été fait au verset 22. Est-ce que nous aussi, il y a des choses qu'on laisse, bof, c'est pas bien grave. Ces choses vont revenir nous hanter. Est un problème pour beaucoup de garçons avec la pornographie. La pornographie, c'est un péché parmi d'autres. c'est pas le plus terrible, mais c'est quelque chose qui, si vous ne, là je parle aux garçons, si vous n'en prenez pas soin définitivement, c'est quelque chose qui va vous poursuivre et qui va vous hanter. Et sachez que c'est encore un mensonge de l'ennemi. De croire que vous allez trouver de la satisfaction en regardant des images, c'est un mensonge de l'ennemi. Parenthèse refermée. Josué prit donc tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Josué donna en héritage à Israël d'après sa répartition en tribus, puis le pays fut tranquille, sans guerre. Le chapitre 12, c'est un récapitulatif, pardon, de 31 victoires. Une pour chaque jour du mois. On est surpris de voir qu'en fait, le Seigneur garde le détail de toutes ses victoires, de toutes ses batailles. Nous aussi, nous devons nous rappeler des victoires que le Seigneur nous a données. Quelqu'un a dit, l'histoire, c'est aussi de la prophétie avec Dieu. Ce qu'il a accompli dans votre vie, c'est ce qu'il veut accomplir et ce qu'il va continuer d'accomplir. Pour foncer en avant, comme on disait avec Paul ce matin, il faut plusieurs choses. Il faut une stratégie. Trop souvent, on n'a pas de stratégie. Et c'est très spirituel dans les milieux chrétiens de dire c'est l'Esprit Saint qui dirige. Ça veut dire que je ne sais pas, d'une minute à l'autre, je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Mais l'Esprit Saint peut vous inspirer une stratégie. Et c'est lui seul qui doit vous l'inspirer. Mais si on ne sait pas où on va, on n'y arrivera pas. Là encore, on a vu la stratégie. Diviser en deux, aller vers le sud, aller vers le nord. Le Seigneur aussi veut que nous frappions au cœur de nos batailles. Certains nouveaux chrétiens ont un problème avec la cigarette. Est-ce que c'est vraiment là le cœur du problème? Il y a sans doute des choses plus importantes avec lesquelles il faut se battre. Le Seigneur prendra soin du tabac. Demandons au Seigneur, à l'Esprit Saint, de nous montrer une stratégie. Nous devons croire et obéir, obéir et croire. Il y a un chant qui dit que trust and obey, crois et obéis. Si l'un des deux manque, c'est comme si on est en bateau avec une seule rame. On ne va pas bien loin. Nous avons vu la persévérance, c'est essentiel. Wayne Taylor, mon pasteur, faisait remarquer, il doit avoir un livre de faits divers scientifiques pour les sermons. Et qu'avant de produire un kilo de miel, une abeille doit voler 6 fois le tour du monde. La vie chrétienne, c'est une foi longue distance. Le Seigneur honore la persévérance. Et il est là à chaque instant pour nous encourager. Et finalement, il faut aussi se reposer en Christ. Verset 23. On voit que le pays fut tranquille, sans guerre. Josué donna en héritage à Israël le pays qui avait été conquis. Et nous aussi, nous devons apprendre à apprécier ce que nous donne le Seigneur. Lui donner la gloire pour toutes les victoires qu'il nous fait remporter. Parce que c'est lui qui a remporté la victoire à la croix. C'est lui qui nous soutient en toutes choses. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui obéir, lui faire confiance, persévérer. Je crois que si Rain n'était resté qu'un an, il aurait eu un impact, mais il n'aurait pas eu le même impact qu'en restant 5 ans. Maintenant, s'il restait 20 ans, ah,